Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Je vous raconte aujourd'hui notre légende, Johnny Hallyday. Je vous raconte comment il s'est construit. Quinca.
Europe 1. Christophe Ondelat.
C'est la fêlure de Johnny Hallyday. La blessure autour de laquelle il s'est construit. Quinca. À la naissance, son père ne l'a pas reconnu. Son père l'a abandonné.
C'est un chanteur abandonné qui a vécu sans se retourner. Sûr que le blues est inventé pour lui cette nuit, parce qu'il a su s'abandonner à ceux qui ont voulu l'aimer. Il a donné ce qu'il avait, mais lui, il se demande qui il est. Abandonné, oui, abandonné, jamais abandonné.
C'est une mère qui vous a manqué, ça.
Non, c'est surtout un père. C'est surtout un père parce que j'ai été élevé, pour ainsi dire, que par des femmes.
Je l'ai inventé tout entier. Il a fini par exister. Je l'ai fabriqué comme j'ai pu. Père que je n'ai jamais eu. J'imaginais ma main d'enfant à l'abri dans sa main de grand, le seul homme en qui j'aurais cru.
Johnny naît en pleine guerre, à Paris, le 15 juin 1943, à 13h, à la clinique Marie-Louise, dans le 9e arrondissement. Et si vous vous penchez sur son berceau, si vous regardez le petit bracelet en carton qu'il porte à son petit bras, vous verrez qu'il est écrit le nom de Jean-Philippe Claire. Et Claire, c'est le nom de sa mère, Huguette. 23 ans, belle, grande, blonde, qui travaille dans une crèmerie. Et le père, alors? Il est où, le père? Pourquoi est-ce que le gamin ne porte pas son nom? Le père? Ah, c'est un sacré loustique. Allez savoir si à cette heure-ci, il n'est pas au bistrot ou dans le lit d'une donzelle. Le père s'appelle Léon. Léon Smet. Il est belge. Acteur et professeur de théâtre. Beau gosse, avec des grands yeux clairs à se damner. Il a 35 ans et Huguette n'est pas sa première greluche. Il a déjà été marié deux fois. Et ce marmot, eh bien ce marmot, il s'en fiche. Ce marmot, il n'en voulait pas. Donc, il ne veut pas le reconnaître à la mairie. Et il se barre. Il se carapate. Le petit Jean-Philippe a 3 mois. Et un jour de septembre 1943, Léon vend tous les meubles de la maison. Tous, y compris le berceau du bébé. Il le dépose sur le parquet, sur une couverture, et il se casse. Le diable emporte même les tickets de rationnement. Il les échangera contre une ou deux boutanches. Il est dans l'alcool jusqu'au cou. Et Huguette se retrouve fille-mère, et elle va se réfugier à la campagne, en Normandie. Pendant la guerre, on était toujours mieux à la campagne. Huguette revient à Paris 7 mois plus tard. Et complètement par hasard, elle tombe sur Léon.
Tu pourrais assumer, quand même, pour le gamin. Tu pourrais au moins le reconnaître.
Et contre toute attente, Léon dit oui. Il fait même mieux que ça. Il épouse Huguette, le 7 septembre 1944. N'imaginez pas une grande cérémonie, hein. Les témoins sont des voisins et à la fin, il se serre la main. Point. Et le petit Jean-Philippe Clerc devient Jean-Philippe Smet. Il a 14 mois, il n'est pas prêt de le revoir. Son papa. Et Huguette, la maman, se retrouve seule avec le marmot, en pleine guerre, à Paris. Elle a trouvé un boulot. Faut bien faire bouillir la marmite. Elle est mannequin cabine chez Lanvin. Attention, hein, ça ne consiste pas à défiler sur les podiums. Huguette se contente de défiler dans la boutique, pour donner aux clientes l'envie d'acheter des vêtements. Et comme elle n'a pas trop le temps de s'occuper du gamin, elle confie Jean-Philippe à sa belle-sœur, la sœur de Léon, Hélène. Elle a déjà deux filles, Desta et Ménène, elle sait s'y faire, avec les minots. C'est elle qui a en partie élevé Léon quand leur père est mort. Alors au début, elle le confie à Hélène pour un jour ou deux, et puis... ça dure. La tati Hélène tente un jour de réintéresser le père à son fils, mais Léon est reparti en Belgique.
Vous l'avez abandonné ?
Non, je ne l'ai pas abandonné. C'est ma sœur qui un jour est venue me voir. Elle m'a dit, écoute, tu dois faire quelque chose avec ton fils. Tu ne vas pas le laisser comme ça. Ben, je dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec lui ? Mais occupe-toi, débrouille-toi. Je ne vois pas. Et alors elle s'est occupée de lui. Et le résultat, vous le connaissez. Hein.
À la Libération, en mars 1945, le tonton, le mari d'Hélène, est arrêté pour collaboration. Et il est envoyé en tôle. Du coup, la tati Hélène décide de s'exiler, de fuir la France, d'aller à Londres. Ses deux filles, Desta et Ménène, viennent de décrocher un contrat de danseuse à l'International Ballet. Et le plus naturellement du monde, eh bien, elle emmène Jean-Philippe avec elle. La maman est d'accord, c'est pour quelques mois, je reviendrai. En vérité, elle ne reviendra pas tout de suite. Le petit Jean-Philippe n'avait déjà pas de père, il vient de couper les ponts avec sa maman. C'est rude, hein ? Il n'a même pas 3 ans. Tout ça pour se retrouver à Londres, à 4 dans la chambrette d'une pension de famille. Pour vous dire, Jean-Philippe n'a même pas de lit, il dort dans une valise, juste au-dessous du fil à linge qui traverse la piole de part en part. La mère Huguette réapparaît au bout d'un an et demi. Elle vient le voir à Londres. Sauf que lui, pauvre gamin, il l'avait oublié, il ne la connaît pas. C'est sa tante Hélène qui l'appelle maman. On lui dit que cette dame est sa maman. Et lui, il lui dit « Non, toi t'es trop jeune. » Dans les couloirs de cette pension anglaise, le jeune Jean-Philippe a pas mal de succès. Blondiné, avec de belles boucles, de beaux yeux. Et c'est à ce moment-là que l'on voit poindre le futur Johnny Hallyday. Car le petit garçon qui n'a pas de papa s'entiche de l'occupant de la chambre voisine. Un danseur, un Américain, Lee Ketcham. Un grand blond très costaud, originaire de l'Oklahoma et qui porte toute la journée un chapeau de cow-boy, une chemise à carreaux, un jean et des bottes pointues. Il lui raconte le ranch de son enfance, des histoires de cow-boy et d'indiens. Et il l'emmène sur sa moto, une Royal Enfield. Le petit Jean-Philippe est fasciné par ce type. Et comme l'autre ne sait pas prononcer Jean-Philippe, il l'appelle John, tout simplement. C'est lui, en quelque sorte, qui baptise le futur Johnny Hallyday. Et pour parfaire le tout, Lee Ketcham tombe amoureux de la cousine d'Esta. Et ce faisant, il devient l'homme de la famille et le père de cœur du petit Jean-Philippe. Je vous l'ai dit, ce Lee est danseur. Et vous vous souvenez que les deux cousines, Desta et Ménène, sont danseuses elles aussi. Eh bien ensemble, ils vont former un trio de danseurs. La tante Hélène s'occupera des contrats et le trio choisit un nom. Ils s'appelleront les Hallydays. Eh oui, je vous le disais, c'était des années clés de l'histoire de Johnny Hallyday. Et voilà le trio qui part pour une grande tournée européenne, avec le petit Jean-Philippe sous le bras, bien sûr. Et voilà comment le gamin devient un enfant de la balle. Il ne va pas à l'école, il suit des cours par correspondance. Il apprend surtout le violon et la danse classique. Si, si, la danse classique. Un jour, une voyante dit à la tante Hélène «
Je vois une étoile dans votre famille. Oui, oui. Je vois une étoile.
J'ai été élevé par une famille d'artistes qui voyageait beaucoup, qui faisait beaucoup de musicals, beaucoup de cabarets. Donc, je voyais pas, très honnêtement, je me voyais pas comptable plus tard. Je me voyais plutôt artiste.
Et c'est comme ça qu'un jour, le jeune Jean-Philippe monte sur scène en première partie des Hallydays.
À l'époque, je chantais David Crockett. David Crockett, l'homme qui n'a jamais peur.
David Crockett, le plus grand des trappeurs. Comme il aimait son pays comme personne, il alla se battre jusqu'à Washington pour créer des lois et un gouvernement, des prix de liberté, plein de bons sentiments. David Crockett, sans reproche et sans peur. Il galopait partout ce diable d'homme. On l'a vu à Austin, on l'a vu à Houston. Car la liberté n'était pas un vain mot pour David, le héros de Fort Alamo.
À 12 ans, Jean-Philippe croise la route d'un guitariste de flamenco. C'est lui qui lui apprend à jouer de la guitare. Voilà. Jean-Philippe n'est pas encore Johnny, mais toutes les bases sont posées. Et la suite va se passer à Paris. Et en 10 ans, les choses ont bien changé dans le 9e arrondissement. Pas question de retrouver sa mère, elle a quitté Paris. Elle vit à Grenoble où elle s'est remariée. Elle a deux autres enfants, deux garçons. Donc Jean-Philippe reste avec sa tante Hélène. Je vous l'ai dit, pendant toutes ces années anglaises, le gamin n'a pas mis les pieds à l'école. La vraie. L'école de la vie, oui, mais c'est tout. Et maintenant à Paris, que voulez-vous qu'il fasse à l'école ? Il traîne. Il traîne en bas de chez lui, dans une drôle de tenue, entre nous. Des Santiago et un chapeau de cow-boy. Et les gamins du quartier ne sont pas tendres avec lui.
Enfin, chez moi, quand j'entrais à la maison, j'avais pas tellement de compréhension. Dans mon quartier, tout le monde savait que j'avais... En fait, mes parents avaient divorcé. J'étais un peu mal vu par les enfants du quartier. Alors, on m'acceptait pas. Par exemple, j'avais des... De temps en temps, j'avais des amis, mais les parents ne m'acceptaient pas chez eux. Et j'en ai souffert jusqu'à l'âge de 18 ans, de ça.
Jusqu'à ce qu'un jour, un gamin du coin, un certain Aouli Kalafaté, vienne lui parler.
Tu fais quoi ? Ben, je regarde à droite, à gauche. Tu veux qu'on marche un peu ? Ben, ouais.
Alors ils marchent, tous les deux, jusqu'au square de la Trinité. C'est là que se retrouvent les jeunes du quartier. Ils s'assoient sur un banc et c'est le début d'une amitié. C'est la première bande de Jean-Philippe. Mais qu'est-ce qu'il va faire de sa vie, ce gamin ? Hein ? Pour l'instant, il rêve d'être comédien. Et d'ailleurs, il joue des petits rôles dans des réclames. Il joue même un tout petit rôle dans Les Diaboliques d'Henri-Georges Clouzot. Bon, sa réplique est coupée au montage. Mais on l'a vu au cinéma. Il en est fier. Le cinéma... Pour 1,30 francs, il y passe toutes ses journées.
Moi, j'allais surtout dans les cinémas de quartier quand j'étais môme. D'abord parce que nous n'avions pas l'argent et que les cinémas de quartier étaient les cinémas les moins chers. Il y avait deux films différents par soir, un petit peu comme la fameuse émission d'Eddie Mitchell. C'est-à-dire, il y avait un film, il y avait un entracte, il y avait une attraction, il y avait un documentaire, il y avait les actualités, et puis il y avait un deuxième film. Donc, si tu veux, c'était bien parce que ça faisait... ça faisait passer une soirée complète.
Il est fasciné par Marlon Brando et bien sûr par James Dean. Et un jour au cinéma, il voit Elvis Presley.
C'est dans un cinéma de quartier, j'avais été pour voir des cow-boys habillés en cow-boy. Bon, donc je dis, putain, je vais aller voir un western. Et puis après, je me dis, je me suis planté, je vois une comédie musicale, quoi, finalement. Et puis quand même, je vois Elvis quand même. Et puis sa façon de bouger, etc. Et puis c'était une musique qu'on n'avait pas trop l'habitude d'entendre. Et ça m'a intrigué. Et je suis revenu le lendemain revoir ça. Et il y avait très peu de gens dans la salle. Il y avait quand même quelques filles qui criaient quand ils chantaient. Et j'ai dit, tiens. Et ça commençait à m'intéresser. Et à l'époque, je jouais de la guitare classique. Alors, après, j'ai troqué ma guitare classique, où je me suis fait engueuler d'ailleurs par Lee et Desta. Et puis, je suis devenu un fan de Elvis.
Et après? Après, c'est du mimétisme. Il veut tout faire comme cet Elvis Presley. Il apprend ses chansons à la guitare et il passe devant la glace des heures à l'imiter avec le col relevé. Et il se met à chanter dans les bals et les dancing. Et c'est là qu'il se fait appeler Johnny Hallyday. Johnny parce que Lee l'appelait John et Hallyday comme le trio de danseurs que formaient Lee et ses deux cousines. Mais attention, il ne chante que pour se payer des cours de comédie. Il n'a pas du tout l'intention de devenir chanteur. Il veut toujours être acteur. Mais c'est bien en tant que chanteur qu'à l'âge de 16 ans, en décembre 1959, il est invité à sa première émission de radio, Paris Cocktail, de Pierre Mendelssohn, à la RTF. Et c'est juste après qu'il sort son premier 45 tours, 4 titres, et notamment celui-ci.
Ma mère me dit régulièrement, tu ne fais rien, tu perds ton temps, tu ferais mieux de travailler au lieu de t'en aller traîner. Les flépilles, oui, les flépilles, tu as bien le temps d'avoir des milliers d'entraînements, crois-moi.
Johnny a 17 ans, et sur la pochette de son premier 45 tours, sa maison de disques fait un gros mensonge. Elle écrit « Américain de culture française, il a été élevé dans un ranch et chante aussi bien en anglais qu'en français ». Et quand il participe en avril 1961 à l'École des vedettes, un télécrochet présenté par Aimé Mortimer, Céline Renaud, qu'il ne connaît pas, qui le présente, ou plutôt qui présente sa légende.
Eh bien, Johnny Hallyday, venez. Il a 16 ans, je crois.
17.
17, vous voyez, ça change tout. Pourquoi s'appelle-t-il Johnny Hallyday? Il s'appelle Johnny Hallyday parce que son père s'appelle Hallyday. C'est tout simple, il fallait y penser.
Mais le père est américain, je suppose.
Le père est américain et la maman française. Alors c'est un produit moitié français, moitié américain.
Et lui, il ne dément pas. De toute façon, il est timide. Et puis, ça lui plaît bien d'être le fils d'un cow-boy américain. Il entre sur la petite scène de l'émission et il chante sa chanson.
Allez, Rocky! Qui me dit toujours, vas-y mon gars, puisque les filles se lèvent pour ça. Laisse les filles, oui, laisse les filles te câliner, te caresser, te cajoler, crois-moi. Oui, laisse-toi aimer des filles. Oui, laisse-toi aimer des filles. Oui, laisse-toi aimer des filles.
Ce qui frappe tout le monde ce jour-là, dans ce télécrochet, c'est qu'il bouge comme personne. Le standard explose et au bout du fil, il y a surtout des jeunes filles.
Est-ce que je pourrais avoir une photo de ce Johnny, s'il vous plaît ?
Les jeunes adorent ce qu'ils viennent d'entendre, du rock'n'roll. Les vieux, en revanche, détestent.
Quand j'ai commencé, j'étais très controversé. Les parterres des salles, c'était des gens qui étaient plus bourgeois, des gens qui ne comprenaient pas très bien ce que je faisais. Par contre, j'avais les balcons où c'était les mômes qui, eux, me soutenaient à mort. Et puis voilà, je crois que j'étais le premier à faire ça en France, en tout cas.
Il est le premier aussi à se rouler par terre avec sa guitare. Et à partir de ce moment-là, à chaque concert, il y a des fans qui l'attendent à la sortie.
Vous avez toujours quelqu'un qui fait le guet ?
Toujours, matin, toujours, soir, par n'importe quel temps, sous la pluie, quand il fait chaud, quand il fait froid.
Le samedi, le dimanche.
Tous les jours.
Surtout le jeudi, surtout.
Toute la semaine jusqu'à 10h.
Wow,
ah, mais si on travaille, mais entre nos heures de travail, en sortant du travail, on vient.
Même il n'a pas besoin de parler, il passe, ça y est, on est contente. On n'a pas attendu pour rien,
voilà.
C'est pas une passade.
Comme il fume énormément, à chaque fois qu'il jette une cigarette par terre, je le ramasse, puis je le garde, et puis après, dans les petites boîtes, je mets la date, puis les cravates aussi.
En septembre 1961, le jeune Johnny Hallyday est invité chez un chanteur qui s'appelle Charles Aznavour. Il est invité à faire du cheval, puisqu'il est américain et qu'il a grandi dans un ranch. Mais assez vite, Charles s'aperçoit que le gamin ne sait pas faire de cheval.
Mais qu'est-ce qui se passe, gamin ? Ben, c'est la première fois que je fais du cheval. T'as pas vécu dans un ranch ? T'es pas américain ? Non ? Alors il faut le dire. Sinon, ça va te rester sur les épaules toute ta vie. Et qu'est-ce que je dis ? Bah, tu dis que ta maison de disques a voulu faire de la publicité avec ça, c'est tout.
À partir de ce moment-là, Johnny cesse de mentir. Et pour autant, il ne raconte pas l'histoire vraie de son père. Il est timide de toute façon, il n'aime pas parler de lui. Et c'est sans doute cette timidité qui plaît à une jeune chanteuse qui s'appelle Sylvie Vartan. Ils se rencontrent en 62, Johnny a 19 ans, il n'est même pas majeur. Il se marie le 12 avril 65 à Loconville, dans l'Oise.
Sylvie Vartan est absolument ravissante. Elle a réussi à traverser la foule sans salir sa jolie robe blanche. Sylvie s'essuie ce qui pourrait être une larme. Oui, Sylvie a des larmes dans les yeux. Et vous savez, on la comprend car il y a non seulement l'élément émotif, bien sûr, elle se marie, mais il y a aussi cette foule. Cette foule qui l'a pressée à se sortir de voiture. Sylvie,
bonjour.
Je crois que c'est un petit peu raté l'incognito, hein.
Oui, je crois.
Pas trop déçu?
Non, au contraire, ça me fait très plaisir.
Tenez, regardez, Johnny Hallyday arrive. Johnny est habillé en jaquette courte, il porte des pantalons rayés, il porte une cravate grise. Et Johnny aussi semble ému.
Pour ce mariage, Johnny est bien seul. Il n'a pas invité sa mère. Huguette. Huguette regarde le mariage de son fils à la télé, chez elle. Et puis, Johnny a maintenant 21 ans et il doit faire son service militaire, comme tout le monde. Il part pour Offenburg, en Allemagne, au 43e régiment blindé d'infanterie de marine. Et un jour, là-bas, en Allemagne, son père vient à l'entrée de la caserne. Ça fait 21 ans. Qu'ils ne se sont pas vus.
Mon père, je ne l'avais jamais vu, et je me disais, qu'est-ce que mon père viendrait faire à Offenburg, en Allemagne, à l'entrée de la caserne où j'étais en base. Et puis, je ne voulais pas y aller, et puis on m'a ordonné d'y aller, donc j'y ai été, et puis j'ai vu un monsieur avec un long manteau se précipiter sur moi. Alors ça m'a fait un drôle d'effet parce qu'il m'a parlé avec l'accent belge. Et en me disant, je suis ton père. Et puis il a sorti un sans-puche de son manteau. Et là, j'ai vu des paparazzi sortir un petit peu de partout, faire la photo. Et là, par la suite, j'ai appris qu'il avait touché de l'argent pour venir faire cette fameuse photo à sortie de la caserne où j'étais basé. Au début, j'ai dit, tiens, mon père veut me voir. Et il s'intéresse à moi. Et puis j'ai été... Le monde s'est un peu écroulé. J'ai été très déçu quand j'ai appris que c'était pour le pognon, finalement, qu'il avait fait ça.
Pour cette misérable paparazzade, Léon a touché 5000 francs. Et après, il disparaît comme un voleur. Cette nuit-là, Johnny, dans le dortoir de sa caserne, sous les couvertures rêches de l'armée, pleure toute la nuit. Et puis, il est rattrapé par la vie. Sylvie accouche en août 66 d'un petit garçon qu'ils appellent David. Il est papa ! Il est papa ! Un mot qu'il n'a jamais prononcé lui-même. Il est papa, mais il est chanteur. Et donc il doit partir pour l'Italie. Ça l'angoisse, ça. Il ne veut pas reproduire ce dont il a tant souffert. Il ne veut pas laisser tomber son bébé. Il fera ce qu'il peut. C'est pas simple, la vie.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.